Conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, la vie sur Mars est-elle vivable ? La distance de la planète rouge par rapport à la Terre varie entre 55 et 400 millions de kilomètres. Elle est 10 fois moins massive que la Terre et 10 fois plus massive que la Lune. La gravité y est 3 fois moindre que sur la Terre. Elle porte la plus haute montagne du système solaire, le mont Olympus, dont le sommet culmine à 25 km. Mars est une fois et demie plus éloignée du Soleil que la Terre, et elle reçoit, selon sa position sur son orbite, entre 2 et 3 fois moins d'énergie solaire que notre planète. Son atmosphère est 150 fois moins dense que la nôtre, elle ne produit donc qu'un effet de serre limité, de sorte que sa température moyenne est très basse, voisine de moins 65 degrés Celsius, on s'y les gèle donc. Bref, personne ne devrait avoir envie d'aller sur la planète rouge, et pourtant si, on trouve des jeunes gens qui souhaitent apporter leur petite pierre à l'édifice que serait un vol habité vers Mars. Mais ce n'est pas pour demain, car avant d'y aller, il y a beaucoup de choses à faire, notamment déterminer autant que faire se peut comment l'on pourrait survivre et peut-être même vivre sur Mars. En février dernier, 6 étudiants toulousains qui avaient répondu à un appel lancé par la Mars Society, l'organisation internationale qui promeut l'exploration et la colonisation de la planète Mars, ont vécu pendant 2 semaines dans la Mars Desert Research Station, une capsule de 8 mètres de diamètre, installée dans le désert de l'Utah aux États-Unis, qu'ils n'ont pas pu quitter sans enfiler un scaphandre adapté. Ils ont vécu comme s'ils étaient sur Mars, enfin presque. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui 2 de ces étudiants, accompagnés par leur professeur. Je commence par vous, madame Stéphanie Lizy-Détré. Vous êtes professeure à SupAéro de conception des systèmes spatiaux.
Bonjour.
Bonjour, et je crois que c'est vous qui avez entraîné ces jeunes gens dans cette aventure, ou alors c'est eux qui vous ont entraîné, je ne sais pas.
Effectivement, c'est eux qui sont venus me chercher pour participer à l'aventure. Après, je pense que j'ai ma part de responsabilité en leur ayant transmis ma passion pour l'espace et pour le vol habité.
Et alors, les 2 étudiants sont Mohamed Iran Manej. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes étudiant à SupAéro, ou vous avez été étudiant à SupAéro, vous êtes diplômé, je crois.
Oui, c'est ça, récemment diplômé.
Et vous avez vécu cette expérience en février dernier quelle date à quelle date? Du 20 février au 5 mars?
C'est ça, oui. C'était entre le 19 et le 5.
Et c'était une récidive pour vous?
Oui, c'est ça. Donc, il y avait une première année, donc l'année dernière, on avait été une première fois avec un autre membre de l'équipage, Mélis Kubo, où là, l'idée, c'était de nous entraîner à pouvoir prendre le commandement, en fait, d'un autre équipage où il y aurait des gens sans expérience.
Et l'autre étudiant présent ici, c'est Camille Gontier. Vous êtes vous-même, vous aussi, plutôt étudiant à SupAéro.
Exactement. J'ai fini ma formation, mais pas encore diplômé.
Et c'est votre première expérience carcérale?
Pour ma part, c'était ma première expérience carcérale sur Mars comme sur Terre. Et effectivement, j'ai donc pu partir sous le commandement de Mehdi et de Mohamed, qui eux avaient déjà une mission d'expérience par rapport à nous.
Alors, c'est ma première question en fait, c'est d'où vous vient à tous les deux et aux 4 camarades qui vous ont accompagné ce goût pour une expérience carcérale? Vous êtes enfermé dans un habitacle très restreint, vous ne pouvez sortir qu'avec un scaphandre.
Bah, c'est sûr que nous, on le regardait pas sous cet aspect-là. On se disait pas qu'on va aller s'enfermer pendant 2 semaines. Nous, ce qu'on se disait, c'était c'est une expérience unique d'être dans un environnement qui va simuler en partie les opérations de la vie sur Mars. Et donc, nous qui sommes, qu'on se destine à une carrière d'ingénieur dans le spatial, déjà rien que se mettre à la place des gens qui seront dans cette situation, qui vont avoir des contraintes que nous, on n'a pas sur Terre. On pense tout simplement, par exemple, pour manipuler des objets une fois qu'on est en scaphandre. Donc, il y a tous ces aspects-là qu'on peut pas, si on veut être un bon ingénieur, il faut savoir se mettre à la place des astronautes qui auront ces contraintes-là. Donc, rien que sur cet aspect-là, c'était très intéressant pour nous de nous mettre à leur place.
Mais avant d'entendre cet appel lancé par la Mars Society, qui cherchait des candidats pour cette expérience, est-ce que vous vous intéressiez déjà à Mars?
À l'exploration humaine de l'espace, clairement, et Mars a toujours été un très bon candidat. C'est quelque chose qui fait rêver beaucoup de gens, en tout cas à SupAéro, d'explorer l'espace et l'exploration humaine.
Mais alors, pouvez-vous nous dire, pour nos auditeurs, ce que vous savez sur Mars? Camille Gontier.
Comme vous voulez. D'accord. Bah, ce qu'on sait sur Mars, on sait en fait déjà beaucoup de choses grâce aux différentes sondes qui ont survolé et qui ont exploré Mars. La première d'entre elles, c'était Mariner 4 en 1965. Et depuis, il y a eu des dizaines de missions de plusieurs pays qui sont venus explorer la planète, son atmosphère, son sol, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il n'y a pas si longtemps, à l'échelle des temps géologiques, il y a quelques milliards d'années, Mars était une planète qui ressemblait en fait beaucoup à la Terre. C'était une planète avec des océans, avec de l'eau liquide, avec une atmosphère, et qui a perdu en plusieurs millions d'années son champ magnétique, son atmosphère, ses océans, pour devenir une sorte de désert sans eau liquide, sans atmosphère, et complètement inhospitalier pour la vie.
Il y a quand même une atmosphère, mais elle est très ténue.
Elle est très très ténue, elle est constituée essentiellement de gaz carbonique, et elle est tellement ténue qu'on retrouve à peu près la même pression que celle qu'on aurait sur Terre à environ 30 ou 40 km d'altitude. Donc complètement impossible d'y vivre, des cellules ne pourraient pas y survivre. Et donc ça pourrait être très intéressant d'explorer in situ cette planète pour voir comment est-ce que de tels processus géologiques peuvent arriver à une planète et finir par la tuer.
Mais vous pensez qu'on a besoin d'y aller pour faire ces études? On ne peut pas les faire à partir de robots qui seraient déposés sur la surface ou d'observations faites par des vaisseaux qui tourneraient autour?
Bah, je vais vous épargner les différentes citations sur la Terre qui est notre berceau et en expliquant qu'on a besoin de quitter notre berceau parce qu'à ce niveau-là, ça c'est un petit peu galvaudé.
Ça, vous pensez qu'on est condamné à quitter la Terre? Vous ne pensez pas que nous sommes des êtres géocentrés?
Je pense pas qu'on soit des êtres géocentrés. Je pense qu'effectivement, c'est vraiment capital. Ce serait une formidable aventure de pouvoir explorer d'autres mondes. Mais même d'un point de vue beaucoup plus terre à terre, Mars à Mars. Les astronautes font un travail que actuellement, même les meilleures sondes n'arrivent pas à fournir. Un robot, même très perfectionné, n'arrivera pas à fournir le même travail qu'un astronaute qui sera présent sur Mars. Même d'un point de vue sécurité ou efficacité, un pilote est beaucoup plus capable de prévenir un accident ou d'éviter une situation dangereuse qu'un drone. Dans le domaine de l'aviation civile et du pilotage, on a l'ordre de grandeur, c'est qu'on a environ un accident tous les millions de décollages, tandis que pour les drones, civils ou militaires, l'ordre de grandeur, c'est plutôt qu'on a un accident tous les 600 décollages. Donc jusqu'à présent, bon, ça s'apporte sur le domaine du pilotage, mais c'est valable dans tous les autres domaines de l'exploration spatiale, les humains restent beaucoup plus capables que des drones ou des robots.
Mmh. Je parlais de la température dans mon introduction, moins 60 degrés Celsius. Comment est-ce qu'on s'adapte à ces conditions-là? C'est le professeur qui va parler.
Oui, je voulais juste ajouter un petit complément à ce que Camille vient de dire, c'est que le gros avantage de l'homme, c'est sa flexibilité. Donc quand on part en exploration, on va découvrir, donc on ne peut pas prédire ce qu'il va se passer. Un robot ne va pouvoir faire que ce pour quoi il a été programmé, alors qu'un être humain, il est flexible, il va s'adapter à son environnement, il va pouvoir proposer une nouvelle solution, une nouvelle stratégie face à un environnement.
Il est flexible et fragile.
Certes, face à moins 60 degrés, effectivement, il faut se protéger. Et on va se protéger justement en concevant des habitats qui régulent la température, en concevant des scaphandres qui vont nous permettre de survivre dans un environnement aussi hostile.
Ainsi a été réalisé pour la première fois dans l'histoire un vol technique de la Terre sur un autre corps terrestre.
On vient de MARS, ce n'est pas une farce. IAM Life de la planète Mars. Veille, sommeil, devient un violent poison pour ceux qui nous enferment derrière une cloison. Une cité à part, plongée dans le noir. De la délinquance des rues quand vient le soir. Mais que de mots dépassés, que de folie. Ici sont des génies du genre Léonard Vinci. Et voici aujourd'hui juste un cliché de la ville du sud qui brûle à plus de 1000 degrés. Les New Jack qui sont joués comme un tic-tac-toe. Impro et prennent la fuite en zigzag.
Car si je pars et qu'il ne reste plus rien de la planète Mars.
Alors, est-ce que vous pouvez décrire l'habitacle pour commencer? Peut-être même raconter votre aventure en commençant par le départ. C'est-à-dire, vous êtes à Toulouse, vous prenez un avion pour les États-Unis, j'imagine.
C'est ça, exactement.
Comment ça se passe ensuite?
Donc, en fait, ça a commencé bien avant le premier vol. Donc, une fois que notre dossier a été envoyé et que l'appel a été accepté, en fait, basé sur notre équipage, ils cherchaient bien sûr des profils de personnes qui seraient capables de vivre dans ce type d'environnement, qui serait capable de vivre avec le minimum de confort et surtout dans un environnement confiné. C'est pas imposé, c'est pas imposé. Là ici, c'était le cas, mais c'était ce sera pas le cas par exemple pour l'équipage de l'année prochaine. Donc il y aura des filles dans l'équipage, mais donc cette année on était que des garçons. Il y a eu des équipages qui vont là-bas où c'est des équipages entièrement.
Que des garçons qui se connaissaient avant.
Ça, je crois que c'est très très important quand on écoute par exemple des astronautes comme Chris Hadfield qui a été plusieurs fois sur l'ISS et qui a été commandant en fait d'équipage sur l'ISS. Lui, il explique vraiment que comment il gère pour préparer son équipage, c'est vraiment passer le maximum de temps ensemble, qu'ils apprennent à se connaître et qu'ils fassent énormément d'activités ensemble parce que c'est comme ça qu'ils vont pouvoir s'entraider et travailler ensemble et réussir leur mission. C'est très très important quand on est dans un environnement confiné de se connaître. Donc nous on a donc voilà une fois que c'est l'équipage avait été sélectionné, on a dû postuler avec des expériences et ces expériences il y a eu beaucoup d'allers-retours avec l'espèce d'analyse des scientifiques des missions pour qu'ils soient approuvés. Donc une fois que c'était approuvé et que les billets d'avion ont été achetés, on est parti de Toulouse et de d'autres villes en fait et on s'est rejoint tous aux États-Unis donc à Grand Junction dans le Colorado. À partir de là, il y avait encore 3 heures de route.
3 heures de route. Oui.
Jusqu'à Hanksville, qui est vraiment un très petit village dans l'est de l'Utah, où il y avait presque 300 habitants. Et à partir de là, il fallait encore prendre une heure de voiture. Et là, on était vraiment donc en dehors des routes pour arriver à cet habitat. Cet habitat, ça va être un cylindre de 2 étages, de 50 mètres carrés par étage. C'est environ 8 mètres de diamètre. Et donc, sur ces 2 étages, le premier étage en bas, ça va être la partie laboratoire, la partie garage où on va pouvoir préparer les expériences. Et le 2e étage, là, ça va être l'espace de vie. On aura la cuisine, l'espace de travail et les chambres. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si l'espace était très limité, ils ont absolument tenu pour qu'il y ait un minimum d'espace privé. Donc, chaque personne avait vraiment 2 mètres carrés, donc 1 mètre sur 2, pour son lit personnel avec une porte pour avoir son intimité.
Alors, vous, Mohamed Iran Manesh, vous connaissiez l'endroit ?
Oui.
Mais vous, Camille Gontier, vous l'avez découvert ?
Je l'ai découvert, je l'ai vu qu'en photo jusqu'à présent.
Et alors, ça vous avait fait quelle impression ? Vous avez dit, vous êtes dit, tiens, voilà un bel endroit où vivre ou au contraire
Voilà un bel endroit pour vivre, pourvu qu'on puisse retourner sur Terre ensuite. Mais effectivement,
psychologiquement, vous êtes d'accord avec moi, il est impossible de se mettre dans les conditions qui seraient les vôtres si vous étiez sur Mars. Puisque vous savez que vous êtes là pour 15 jours seulement, que si vous avez un souci, vous serez évacué. C'est pas du tout le même stress que quelqu'un qui serait vraiment sur la planète rouge.
Effectivement, c'était une mission de simulation, mais une simulation qu'on fait sur Terre dans des conditions n'est qu'imparfaite. Le but des missions de simulation, parce qu'elles sont organisées un peu partout dans le monde, pas seulement dans la MDRS qui se trouve dans le désert de l'Utah, c'est d'essayer de se rapprocher au plus près des conditions auxquels des astronautes sur Mars seront effectivement confrontés. Donc le confinement, l'isolement, le manque de confort, etc. La mission qu'on a vécue dans la MDRS, c'est, je dirais que c'est la base de simulation qui est la plus ouverte à des ingénieurs, des étudiants et des scientifiques. C'est celle qui est la moins stricte dans ces conditions de simulation pour permettre à des étudiants et des gens qui ne sont pas forcément des professionnels ou de futurs astronautes d'y accéder. Donc il y a effectivement pas mal d'éléments qu'on a dû mettre de côté dans le réalisme de la simulation. Et effectivement, le fait de savoir qu'il suffit d'ouvrir la porte pour pouvoir sortir si jamais il y a un problème, de savoir qu'il y a une équipe qui est là pour nous aider si jamais il y a un problème également, ça joue énormément sur le conditionnement et c'est quelque chose qu'on prend en compte dans nos résultats, dans les données qu'on collecte.
Et alors, les expériences que vous avez faites, j'allais dire à bord, mais c'est pas à bord, mais c'est des choses que vous aviez préparées ?
Oui. Oui, en fait, on a eu au moins une année de préparation en amont, avant de commencer cette mission, de logistique et de préparation des expériences.
Alors, ça consistait en quoi, par exemple ?
Donc, on avait... par exemple, on avait toute une série d'expériences, par exemple, et la plupart étaient des tests de technologie pour se mettre en situation. Ou d'autres expériences scientifiques. Des tests de technologie, par exemple, on avait avec nous des robots qui permettraient de faire une étude préliminaire d'une paroi dangereuse qui n'est pas facilement accessible par l'homme, envoyer ce petit rover pour pouvoir avoir des informations et puis après seulement envoyer l'homme. Il y avait d'autres types de technologies comme des lunettes à réalité augmentée qui peuvent être utilisées dans ce genre de situation où les mains sont occupées avec les gants, donc du scaphandre, et donc pour prendre note ou pour lire des données, ça se fait pas aussi facilement que quand on est sur Terre. Donc là, comme les mains sont occupées, si on a des lunettes qui vont afficher les procédures, prendre une photo ou donner pas mal d'informations, ça peut faciliter. Et c'était ce genre de technologie qu'on a testé.
Et vous sortiez combien de fois par jour ?
Donc il y avait des règles quand même assez très strictes. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'à chaque fois, la veille, on demande à la base au sol, donc là, qui sont des gens de la Mars Society avec qui on est en contact pendant une fenêtre de communication très limitée, à qui on va envoyer...
C'est-à-dire c'est quelques minutes par jour ?
Ça va être 2 heures par jour, entre 19 et 21h. C'est le seul moment où en fait on va pouvoir communiquer. Et les communications vont...
Ça c'est une contrainte imposée, mais sur Mars, ça sera à peu près ça aussi.
Sur Mars, qui sera clairement la contrainte, ça va être le délai de communication. Donc,
c'est 20 minutes.
Voilà, donc ça va prendre 20 minutes quand on envoie un mail. On ne pourra pas avoir de chat instantané en fait pour communiquer. Ici, c'est pour ça qu'on utilise les mails. Et on peut aussi peut-être s'attendre à des contraintes de limite sur le temps.
Et les mails, vos mails, subissez ce retard de 20 minutes pour vous habituer à des réponses très retardées ou...
Non, c'était quelque chose, un élément de réalisme de la simulation qu'on n'avait pas pris en compte. En fait, la seule contrainte qu'on avait sur nos communications, c'est qu'on avait une fenêtre de communication avec la base seulement 2 heures par jour. Après, le retard en lui-même n'était pas pris en compte. Il y a d'autres missions de simulation, par exemple celles qui permettent à de futurs astronautes de s'entraîner pour des missions spatiales, où là, effectivement, les délais de communication entre la base et la station spatiale sont pris en compte. Mais là, c'était pas pris en compte dans notre simulation.
Et alors, le scaphandre, racontez-moi le scaphandre.
Le scaphandre, donc là, par exemple...
Il était réaliste, c'est-à-dire très lourd.
Donc, dans la partie qui était réaliste, c'était justement le poids, l'encombrement qu'on avait avec nous. Et ce qu'on jouait beaucoup pour la simulation qu'on prenait en compte, c'était en fait le délai qu'il faut prendre pour décompresser le sas avant de sortir. Donc, par exemple, donc une fois qu'on se met en scaphandre, on va se mettre dans un sas qui est fermé des deux côtés par la porte. Et on va attendre quelques minutes... le temps que donc la pression se stabilise pour pouvoir sortir. Et ça, par exemple, c'est une contrainte vraiment psychologique. On a fait notre sortie qui fait très chaud et qu'on rentre et on veut juste, tout ce qu'on veut faire, c'est rentrer, enlever son scaphandre et boire un verre d'eau. Et ben non, on peut pas, il faut attendre.
Vous avez failli dire une bière. Donc ça veut dire qu'il y avait des bières dans le frigidaire.
Non, il n'y en avait pas.
Je tiens à préciser que Mohamed est belge. Et juste pour compléter sur ce que tu viens de dire, en fait, je dirais que le but de ce genre de simulation, c'est non seulement de tester du matériel, des équipements, mais aussi des procédures. Donc effectivement, le scaphandre qu'on portait hors de la base, il n'était pas comprimé, on n'avait pas une pression interne, il n'y avait pas de système de régulation de l'oxygène, etc. Mais par contre, ça permettait de reproduire le plus fidèlement possible les contraintes qu'un scaphandre réel font porter sur un astronaute. Le poids, l'encombrement, le manque de visibilité.
Enfin, la gravité n'est pas du tout la même.
La gravité
elle
sera
est trois fois
plus
faible. Donc les contraintes de poids que vous éprouvez sur Terre sont pas du tout réalistes.
Alors justement, le scaphandre qu'on portait nous sur Terre est plus léger qu'un vrai scaphandre pour justement simuler le poids. Mais nous, non, ni l'inertie.
Parce que la gravité, c'est quelque chose justement qu'on peut pas facilement modifier sur Terre.
Le seul analogue pour pouvoir tester cet aspect-là, c'est d'aller dans l'espace et d'aller sur l'ISS ou d'aller sur la Lune. Donc c'est l'étape intermédiaire avant d'aller sur Mars.
Et ça c'est prévu, c'est-à-dire qu'en étant candidat à cette mission, là je m'adresse aux deux étudiants, vous manifestez que vous seriez candidat pour aller sur Mars ?
Le fait de vouloir aller sur Mars, je crois que... je signerai tout de suite si vous me promettez que je vais rentrer après sur Terre.
Est-ce que quelqu'un pourrait vous promettre ça un jour?
Non, mais promettre dans le sens si c'est prévu au moins qu'on rentre. Mais si on propose par exemple d'aller sur Mars pour explorer et revenir, ou même aller dans l'espace sur la Lune ou sur l'orbite.
Combien de temps va durer le voyage tel que c'est prévu aujourd'hui? C'est plusieurs mois.
Selon les scénarios, en général, le voyage prendrait au moins 6 mois. Rien que pour un aller.
Parce que l'orbite de Mars, elle est très excentrique. Enfin, beaucoup plus excentrique que celle de...
Elle est un peu plus excentrique que celle de la Terre. Les deux planètes se retrouvent en opposition, ça veut dire qu'ils sont au plus près, c'est-à-dire qu'ils sont alignés par rapport au Soleil à peu près tous les 2 ans. Et donc les configurations, voilà.
Tous les 26 mois, oui.
Tous les 26 mois, d'accord. Et donc du coup, les configurations les plus avantageuses, effectivement, pour lancer une mission vers Mars, se retrouvent uniquement tous les 2 ans. Ce qui pose de grosses contraintes sur le temps de trajet, le temps de séjour et le temps de retour.
Et peut-être aussi beaucoup de contraintes sur l'état mental de ceux qui seront dans ce vaisseau. Est-ce qu'il y a des études qui sont menées pour savoir comment un certain nombre de personnes, combien d'ailleurs, quel est le nombre optimal, est-ce que ça peut être déterminé?
Alors effectivement, comme le soulignait Camille, il y a plusieurs scénarios. Un des scénarios, ça serait une mission de 18 mois minimum, 6 mois aller, 6 mois retour et 6 mois sur la planète. Donc, et dans l'étude de ces différents scénarios, il y a une stratégie qui est envisagée avec 3 membres d'équipage, mais celle qui est la plus soutenue, c'est 6 membres d'équipage.
Et ça correspond à des études?
Complètement. Et ce genre...
Alors, comment est-ce qu'on fait ces études-là pour savoir quel est le nombre optimal de personnes embarquées?
Ben, c'est un des enjeux qui sont mis en place par ces simulations au sein du MDRS. C'est-à-dire que l'avantage de faire tourner les équipages ainsi dans le MDRS, c'est qu'on peut étudier différents types de profils, que ce soit comme vous le soulignez tout à l'heure, des équipages mixtes, des équipages que d'hommes, des équipages que de femmes. Donc on collecte un certain nombre d'informations suivant les profils des participants. Ensuite, vous avez aussi des expériences qui sont menées pour les gens qui se travaillent dans des conditions difficiles, des environnements hostiles, comme sur la base Concordia en Antarctique, les gens qui travaillent sur des plateformes pétrolières, ceux qui sont dans des sous-marins. Vous avez des expériences aussi qui sont faites dans des grottes. Et puis, vous avez eu, il y a quelques années, l'expérience Mars 500, avec des gens qui ont été effectivement enfermés pendant plus de 500 jours pour simuler un aller-retour vers Mars. Donc c'est l'accumulation de ce genre d'informations qui permet de remonter à...
Et quel est le bilan de ces 500 jours de confinement?
Alors on ne l'a pas encore parce qu'ils ont cumulé des centaines et des centaines de milliers de données parce qu'on a étudié leur comportement psychologique mais également physiologique. Donc c'est en cours d'analyse. Il y a eu quelques publications actuellement, mais pas assez parce que c'est très lent, en fait, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de données exploitées.
J'imagine qu'il y a quand même des informations qui doivent filtrer, non? Sur l'état psychologique, par exemple.
Alors,
ce qui s'est passé dans l'esprit des personnes qui étaient enfermées au moment où elles sont à nouveau libres.
Exactement, c'est ce qu'il soulignait tout à l'heure qui est très intéressant, c'est-à-dire que pour travailler dans le confinement, il faut connaître l'équipe et il faut être très soudé. Et il y a eu des événements dans l'expérience Mars 500, effectivement, où il y a eu des enjeux interculturels, puisqu'il y avait 3 Russes, 1 Chinois, 1 Espagnol et 1 Français. Et simplement, dans le partage des repas, où tout le monde n'agit pas de la même façon, au bout d'un certain temps de confinement, ça a commencé à soulever des conflits. Et il a fallu apprendre au sein de l'équipe à gérer cette situation-là.
Ce qui était intéressant aussi avec cette expérience, donc qu'on parle avec les gens qui...
Mohamed Iren Manesh.
Oui, dont Romain Charles, qui était le membre de l'équipage français. Donc, en fait, il simule le trajet vers Mars. Donc, et à partir d'une certaine date qui est l'atterrissage simulé sur Mars, ils vont pouvoir ouvrir une porte et avoir accès à un espace supplémentaire qui était le Mars simulé. Et après un mois, en fait, ils ont dû revenir dans leur vaisseau qui était l'espace confiné et repasser quelques mois pour resimuler en fait le retour vers la Terre. Et c'est vrai que par exemple, d'un point de vue psychologique, ils disaient que c'était beaucoup plus difficile le trajet retour que le trajet aller, quoi. Parce que pendant y aller, ils s'attendent à ce que ils ont l'anticipation en fait d'arriver sur Mars et d'explorer, alors que sur le retour, ils ont l'impression d'avoir fini leur mission et tout ce qu'ils veulent, c'est de retourner vers leur famille et voir leurs amis. Donc c'est vrai qu'il y a des choses comme ça, par exemple, qui sont ressorties de ces études-là.
Et vous-même, au bout des 15 jours de confinement, dans le désert de l'Utah, vous étiez content de rentrer chez vous ou vous seriez volontiers resté 15 jours de plus?
Moi, personnellement, je crois que ça fait vraiment du bien de pouvoir reprendre contact en fait, avec des gens qu'on était... surtout, en fait, je crois que dans cette période-là, je crois en 2015, où tout le monde est connecté, on est au maximum de communication les uns avec les autres, quand on se prend 15 jours, même si on n'était pas sur Mars ou dans un environnement confiné ou même incarcéré, c'était déjà difficile. Et là, c'est vrai qu'on n'avait aucune nouvelle, par exemple, de la famille, très peu. Et donc là, les recontacter, ça fait vraiment du bien. Avoir l'air qui caresse notre visage après 2 semaines, ça fait aussi énormément du bien, ou retrouver des goûts et des saveurs qu'on n'a pas eu pendant 2 semaines.
Parce que vous avez mangé lyophilisé.
Exactement, donc de la nourriture déshydratée, on faisait de notre mieux pour cuisiner ça, mais c'est sûr que même en 2 semaines, on commence à sentir le manque de confort, et donc il faut s'adapter.
Et c'est seulement 15 jours. Donc vous imaginez ce que ça peut être si c'est plusieurs mois, plus 6 mois sur Mars, plus plusieurs mois pour le retour. Est-ce que ça vous semble humainement envisageable?
L'histoire de l'exploration spatiale nous a montré qu'il y a eu plusieurs missions, la mission Apollo 13, les missions Skylab et d'autres.
Qui étaient très courtes.
Qui étaient assez courtes et dans lesquelles la dimension psychologique a failli être catastrophique. Il y a eu des incompatibilités d'humeur entre des astronautes, voire même entre l'équipage et le contrôle au sol. Et donc pour une mission aussi longue, la NASA et les différentes agences spatiales se rendent bien compte qu'il serait catastrophique qu'il y ait des conflits au sein de l'équipage dans un espace confiné pour une durée aussi longue. Donc c'est pour ça qu'en fait la sélection des astronautes, un des grands critères de sélection des astronautes sera leur capacité à travailler en équipe, à supporter l'isolement et à pouvoir se tolérer les uns les autres, parce qu'il serait, catastrophique qu'il y ait des disputes, des compétitions, voire même pour un équipage mixte, des phénomènes de compétition sexuelle.
Mais est-ce que vous pensez qu'en cumulant toutes ces expériences, tous ces essais qui se font sur Terre, les gens qui partiraient sur Mars auraient une conscience claire de ce qui les attend? Ou est-ce qu'ils partiraient vers l'inconnu, en fait, puisque rien ne permet de reproduire tous les événements, toutes les situations, tous les contextes qu'ils vont rencontrer? Il n'y a qu'un point commun entre la Terre et Mars, finalement, à part le fait que ce sont deux planètes. C'est la durée du jour.
Oui, puisqu'on est à
24 heures plus 40 minutes.
Donc on est à peu près sur le même cycle, effectivement. Mais pour répondre à votre point, je dirais que c'est pour ça que les agences spatiales internationales visent à faire des premières missions de ce type-là au voisinage de la Lune, parce que un des phénomènes qu'on ne peut pas observer, même quand on est à bord de l'ISS, c'est de quitter le fameux vaisseau mère. Lorsque les astronautes sont allés sur la Lune, ils avaient toujours la Terre dans leur champ de vision. Donc on ne sait pas comment les humains vont réagir à partir du moment où on va quitter le voisinage de la Terre.
On ne verra plus la Terre, on ne voit plus la Terre.
Voilà, et ça c'est un véritable enjeu.
Et ça ne peut pas se simuler.
Alors ils ont essayé de le simuler dans l'expérience Mars 500. Romain nous avait bien expliqué qu'ils ont vu petit à petit la Terre sortir de leur champ de vision. Mais comme ils savaient toujours qu'ils étaient sur Terre, parce qu'ils entendaient simplement les bruits des machines qui faisaient fonctionner leur base, ils savaient qu'ils étaient dans une simulation. Donc actuellement, à part de partir, on ne sait pas le faire.
Vous écoutez France Culture, la conversation scientifique par Étienne Klein.
Cette émission a commencé il y a une demi-heure et j'ai résisté au désir de vous poser la question de Seul sur Mars, le film que j'imagine vous avez vu. Vous l'avez vu avant de partir ou...
J'avais lu le livre avant de voir le film.
Alors est-ce que c'est un film réaliste, d'après vous?
Globalement oui, mais après comme dans tous les films de science-fiction qui se déroulent dans l'espace, il y a certains éléments qui ont été adaptés plus ou moins fort pour que le scénario reste agréable à suivre. En termes d'erreurs, on en avait relevé quelques-unes. Il n'est pas possible de faire pousser des plantes sur le sol de Mars. Il y a effectivement beaucoup de vent sur Mars. Dans le film, on voit qu'effectivement, ils sont obligés d'évacuer leur base à cause de vents violents. Il y a effectivement des vents qui sont très rapides sur Mars, mais vu que l'atmosphère est très ténue, ils sont en fait pas du tout suffisamment puissants pour pouvoir détruire une base qui serait installée sur place.
Est-ce que ça n'est pas pareil pour la température? Elle est très basse, mais comme la densité de l'atmosphère est très faible, ça produit pas le même effet que la même température sur Terre.
En fait, ce qu'il faut savoir aussi pour la température, donc en fait, ce qui est bien avec Mars, et que c'est pour ça que c'est vraiment la planète jumelle à la Terre, c'est qu'il y a aussi une inclinaison, donc on va aussi se retrouver avec des saisons, il y a des pôles, donc la température va varier en fait d'une zone à l'autre pendant les saisons, et donc on a parlé des zones les plus froides qui peuvent atteindre moins 50, moins 60 degrés, mais par exemple en été au niveau de l'équateur, on peut se retrouver avec des températures très proches de celles de la Terre aussi, donc il y a beaucoup de variabilité. Et qui peut avoir beaucoup d'influence sur le climat, sur les vents.
Et le paysage de Mars? Bon, j'ai regardé des photos comme tout le monde.
Bah, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup encore beaucoup de végétation, mais c'est beau, quand on voit les images, ou même, en fait, c'est très ressemblable finalement à ce qu'on a vu dans l'Utah, et c'est impressionnant, et on n'a pas, On sait que c'est hostile, mais en même temps, c'est je sais pas, c'est quoi
oui, c'est une forme de poésie, de majesté. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la MDRS a été installée dans le désert de l'Utah. C'est parce que, en fait, les conditions géologiques ressemblent beaucoup à celles que les rovers qui ont déjà visité le sol de Mars ont pu analyser. C'est poussiéreux, c'est beaucoup de cailloux, de roches volcaniques, des collines aux formes un peu exotiques, des canyons. Et donc, ça permet non seulement d'avoir la géologie qui nous entoure proche de celle de Mars, et également pour le facteur psychologique, de regarder par le hublot et de se dire « c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de voir sur Terre, mais c'est plutôt, j'ai vraiment l'impression d'être sur Mars. »
Moi, j'imagine que vous savez que plus une planète est petite, plus elle peut supporter des montagnes élevées. Et c'est pour ça que sur Mars, on trouve des montagnes qui sont plus hautes que sur la Terre. Je parlais du mont Olympus, 25 kilomètres. Est-ce que, à votre avis, un jour, des alpinistes escaladeront le mont Olympus ? Enfin, je sais pas comment il faudra les appeler d'ailleurs, c'est pas des alpinistes, des olympistiques.
Mais en tout cas,
des olympinistes.
En tout cas, s'il y a quelque chose qui est, si quelque chose est scientifiquement intéressant à voir en haut de cette montagne, ce sera clairement des humains qui vont réussir à y aller et pas des robots comme on l'a dit. Et je crois que c'était ça aussi qui était intéressant dans le film de Martian, c'est que le personnage principal qui a cette capacité de régler les problèmes au fur et à mesure qu'ils arrivent. Là, maintenant, les robots les plus modernes qu'on a envoyés, futuristes qu'on a envoyés sur Mars, la manière dont ils sont pilotés depuis la Terre, si on veut voir quelque chose qui a l'air intéressant derrière un caillou, on va perdre 4 jours peut-être pour aller faire la manœuvre et l'atteindre, alors que si c'était juste une personne, il peut facilement se déplacer et y aller. Pour revenir aussi sur cet aspect vraiment que l'homme peut régler les problèmes et peut-être aussi facilement, enfin pas facilement, mais qui réussira à relever aussi ce challenge de grimper au sommet de ces monts-là. Par exemple, dans la base, nous, à un moment donné, on a eu un problème avec un filtre, en fait, dans le système d'eau. De filtre de la pompe PAO. Et donc, on a communiqué avec la base et on nous a dit, bon, on va essayer d'envoyer avec le nouvel équipage qui viendra après nous pour le réparer la pièce qu'il faut. Mais il y a une imprimante 3D sur place. Essayez de le faire vous-même. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Nous, on a pu prendre les mesures, créer la pièce en 3D avec les ordinateurs qu'on avait, l'imprimer sur place et réparer sur place. Donc là, c'était un système qui existait. C'était un système de vie parce que ça nous permettait d'avoir de l'eau. Mais alors qu'on avait... aucune préparation et on n'avait jamais fait ça, mais juste parce qu'on est des humains et qu'on sait s'adapter à une situation, il y a un problème qui arrive, on sait faire ce qu'il faut pour le réparer. Alors que si on pense à Curiosity, par exemple, maintenant, il a quelques problèmes avec sa roue, malheureusement, il ne s'est pas changé lui-même.
Non, mais je n'étais pas en train de faire la publicité pour les robots, mais j'étais en train d'interroger une conviction que vous semblez défendre, à savoir que l'être humain serait capable de s'adapter à tout, comme s'il n'y avait aucune limite à son adaptation possible.
C'est peut-être un des enjeux de l'exploration, c'est de voir si effectivement on a bien cette capacité à s'adapter à tout. C'est une question scientifique à
soulever. Alors vous qui êtes scientifique et qui vous intéressez à tout cela, quels seraient à votre avis ou quels sont les problèmes qui restent à résoudre pour répondre à cette question ? Quels sont les sujets, les conditions qu'on peut envisager qui pourraient être pour l'homme des sortes de murs vis-à-vis de leur adaptation ?
Pour faire allusion à ce qui a été traité dans Interstellar, par exemple. C'est très bien envisagé. C'est un film sur lequel on peut plus facilement se projeter sur la ressemblance avec ce qui pourrait se passer. Pour en revenir aux enjeux, effectivement, il y a cet aspect psychologique va au-delà parce qu'il y a aussi les aspects capacité de l'homme de survivre aux radiations.
Oui, on ne l'a pas dit, mais pendant le voyage, on prend des doses.
Oui, 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 et ça c'est
un... Ça se calcule.
Actuellement, on n'a pas encore développé les systèmes qui nous permettraient de survivre. Enfin, on a les moyens, simplement il faut des lanceurs suffisamment puissants pour porter la protection. Et actuellement,
parce qu'en l'état actuel des connaissances, j'ai cru avoir lu que les astronautes qui rentreraient de Mars auraient de grandes chances de mourir cancéreux.
Effectivement, parce que ça revient à se placer dans une centrale nucléaire et pendant un certain temps. Et
j'ai aussi lu en préparant cette émission une étude du MIT montrant que l'espérance de vie d'un astronaute qui serait parvenu à se poser sur Mars dans de bonnes conditions serait de 69 jours. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est sérieux ? Et quelles sont les raisons qui font que cette durée est très très fortement limitée ?
Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de la biologie. Hein. Moi, je fais d'autres types de sciences pour l'exploration. Mais en tout cas, ce que j'ai lu, effectivement, c'est l'effet des radiations qui viennent de l'activité du soleil avec des particules à haute énergie pourrait avoir un impact désastreux sur le corps humain. puisqu'elles sont capables de traverser les scaphandres, de traverser l'habitat. Sur Terre, on est protégé par l'atmosphère et surtout par les ceintures de Van Allen qui sont des pièges pour ces particules-là, donc on ne risque rien.
C'est des ceintures de lignes de champ magnétique.
Tout à fait.
Qui piègent les particules chargées du rayonnement cosmique.
C'est ça.
Après, l'étude du MIT dont on parle ici, il prenait vraiment en compte aussi la quantité de ressources en fait, qu'on peut emmener avec nous sur un premier voyage vers Mars. Et donc la limite de 69 jours, c'est aussi tout simplement la quantité d'oxygène, d'air et d'eau qu'on peut emmener avec nous. C'était pour contredire certains scénarios qui essaient de promouvoir l'idée qu'on peut aller sur Mars avec la technologie actuelle et rester là-bas jusqu'à la fin de sa vie. C'est plus pour contrer ce type de scénario-là qu'ils ont fait ces études-là et dire... avec un voyage, ça c'est les ressources qu'on peut emmener avec nous. Et même si la radioactivité ne nous tue pas, on va manquer d'eau.
Ça veut dire que c'est un milieu tellement hostile qu'il faut tout emporter pour survivre. Donc il faut emmener en fait son humanité avec soi pour devenir martien.
Justement, pour éviter d'avoir à emmener toutes les réserves nécessaires à un voyage sur Mars, l'idéal ce serait de pouvoir produire nous-mêmes sur Mars ce dont on a besoin, de pouvoir recycler notre eau, produire notre oxygène, notre carburant. Et ça, c'est encore un des grands défis technologiques qui reste à résoudre, parce qu'à l'heure actuelle, on a encore beaucoup de mal à avoir des systèmes de support de vie, des systèmes de recyclage, capables de fonctionner de manière efficace par eux-mêmes en boucle fermée pendant plusieurs années. Les systèmes de support de vie qui sont sur la Station Spatiale Internationale sont pas forcément très très fiables et ils sont ravitaillés plusieurs fois par an par un vaisseau Soyouz ou par un vaisseau Progress qui vient amener du matériel pour le réparer ou bien des ressources en eau, en nourriture, en oxygène, etc. Pendant un voyage sur Mars et pendant un séjour sur Mars, on n'aura pas cette aide et donc il faut absolument être capable de développer un système de support de vie capable de fonctionner en boucle fermée.
Et de toute façon, pour compléter la réponse de Camille, il faut préparer la mission. C'est-à-dire qu'on ne va pas envoyer un premier équipage avant d'avoir préparé la mission. Il va y avoir des missions robotisées au préalable.
Pour
déployer la base, pour déposer des ressources, du matériel. Et les humains ne rejoindront la surface de Mars.
Ils arriveront à l'hôtel.
Presque. Sauf qu'ils n'auront personne pour les accueillir.
Il n'y aura pas d'hôtel. Il n'y aura pas de standardiste et de... Non. Mais alors, il y a quand même l'idée un petit peu sacrificielle quand même dans ce désir que vous avez d'aller sur Mars. C'est quand même très risqué. Et au nom de quoi on le fait ? C'est pas pour le plaisir, j'imagine, puisqu'on vit dans des conditions assez difficiles. Et au nom de quoi est-ce qu'on est prêt à s'engager dans une telle aventure ? Est-ce que c'est par manque d'intérêt pour la vie terrestre ? Est-ce que c'est parce qu'on a l'impression que notre humanité, dans les conditions où elle vit, fait que notre planète bientôt ne sera plus habitable ? C'est un peu la thématique d'Interstellar. Mm-hmm. Est-ce que c'est ce pari-là que vous faites ?
Alors, je pense pas que ce soit par manque d'intérêt pour la Terre, parce qu'il y a encore énormément de choses à explorer sur Terre. Il y a le fond des océans, les montagnes, etc. Mais je pense qu'en fait, la réponse à votre question se trouve dans la question où vous avez dit vous-même, c'est une aventure, c'est une formidable aventure, et ce serait presque anormal qu'il n'y ait pas des êtres humains qui veuillent la tenter pour essayer de rejoindre la planète Mars.
Mais ils sont très peu nombreux. On en trouve beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'humains, mais ils sont quand même très peu nombreux. C'est-à-dire que, au moment d'y aller, certains qui pourraient, par exemple, se laisser tenter par l'aventure au nom d'une forme de romantisme de l'exploration, au moment d'y aller, auraient une hésitation rédhibitoire.
Puis après, c'est pas seulement une affaire d'aventure. Il faut savoir que l'exploration spatiale et l'exploration de Mars en particulier a et aura toujours de véritables retombées sur Terre. On va développer des technologies qui auront des applications concrètes dans la vie de tous les jours sur Terre, et ça permettra d'augmenter nos connaissances et d'améliorer la vie sur Terre. Ce que j'aime beaucoup pour résumer...
Est-ce que vous diriez ça de l'exploration de la conquête de la Lune, par exemple ? Est-ce qu'on peut dire qu'elle a apporté à la Terre, aux humains, des applications, des retombées technologiques qu'on n'aurait pas eu sans elle ?
Peut-être qu'on aurait mis plus de temps. En parallèle du développement des missions Apollo, il y a eu des tas de démarches d'ingénierie qui ont été menées, même si on regarde l'aspect gestion de projet, l'aspect gestion des coûts, même si on atteint des sommes astronomiques, hein, c'est le cas de le dire. Ces missions-là ont permis énormément de développement de sciences, d'ingénierie, et si on ne les avait pas eues, on l'aurait fait, mais avec beaucoup plus de temps. Donc ça a été un véritable accélérateur. Mmh. Et... préparer une mission vers Mars, il y a aussi cet enjeu-là. C'est-à-dire, on va aussi travailler à l'échelle de la planète, à l'échelle internationale, fédérer les pays entre eux. Donc, on dépasse le stade de uniquement des aspects techniques et scientifiques. Il y a un véritable enjeu.
Est-ce qu'il y a une mission humaine, enfin, vol habité, qui est déjà programmée ?
Vers Mars ?
Oui.
Actuellement, non. Il y a un retour vers la Lune, mais comme une étape pour Mars.
Et le coût, est-ce qu'on peut l'envisager, le calculer, le prévoir ?
Je crois que selon les dernières estimations, le coût d'un scénario Mars direct, le scénario imaginé par Robert Zubrin de la
Mars. Donc on part de la Terre et on va directement sur Mars,
sans passer par la Lune. On va directement sur Mars, sans passer par la Lune, on reste 18 mois sur place et on revient ensuite, c'est d'environ 100 milliards de dollars.
Mmh. Et si on passe par la Lune, c'est moins cher ?
Mais l'idée de la Lune, c'est du coup de faire une évolution des technologies beaucoup plus itérative, c'est de tester des technologies en allant sur la Lune, tester beaucoup plus de choses sur la psychologie des hommes à cette distance-là de la Terre, et puis à évoluer.
Donc
plus
si tard, on prend la métaphore de l'alpinisme, la Lune serait le camp de base.
C'est exactement ça. Puis c'est réduire le risque, comme il l'a dit.
Mais
repousser nos limites progressivement.
Moi, je crois que c'est quand même important qu'on parle de l'intérêt de l'exploration spatiale, parler de tout ce que ça peut apporter comme intérêt en fait non tangible en fait au final pour l'exploration de la Lune. Il y en a beaucoup. Gens font par exemple le rapport, le lien entre le début des mouvements écologiques et environnementalistes avec justement les premières fois où on a pu voir la Terre de l'espace. On s'est rendu compte qu'on vient de là et que c'est ça notre berceau. Ou alors l'engouement qu'il y a eu après la mission Apollo où beaucoup de gens, d'enfants et de jeunes ont été attirés par les études scientifiques et sont devenus ingénieurs et qui ont eu après un impact dans beaucoup d'autres domaines et d'industries. Et puis le dernier aspect, cet aspect de rassemblement des peuples autour d'une mission unique, parce que même quand on pense à l'exploration de la Lune, à ce moment-là, donc quand les Américains le font et qu'ils reviennent, même si c'était dans ce contexte-là de rivalité politique, ils essayent de dire que voilà, c'est la NASA et les Américains qui l'ont fait, mais en attendant, les journaux et les gens disaient que l'homme a marché sur la Lune. Mm-hmm. C'est vraiment, ça regroupait vraiment tout le monde. Et alors la question se pose aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas besoin d'un projet comme ça vraiment qui rassemblerait toutes les cultures, toutes les religions, tous les gens sur cette planète vers un but qui serait commun à l'humanité. Donc rien que cet aspect-là qui ferait qu'on serait tous...
Moi je comprends, j'adhère même, mais ça n'a pas marché vraiment avec la Lune. Donc pourquoi est-ce que ça marcherait à votre avis mieux avec Mars ?
Parce qu'il y a eu l'ISS entre-temps.
Oui.
L'ISS est un exemple parfait de coopération entre... C'est né de la volonté du bloc russe et du bloc américain de travailler ensemble. Et ensuite, ils ont inclus les autres nations. Et même si pendant un certain temps, la Chine était à part de l'exploration spatiale, depuis un an ou deux, ils se joignent à la même réflexion. Donc je pense qu'on a progressé depuis cette période-là et que les enjeux sont partagés.
Un slogan que j'aime beaucoup, c'est le slogan du CNES, l'agence spatiale française, qui est « De l'espace pour la Terre ». J'ai l'impression que nous qui travaillons dans le domaine du spatial, on a effectivement la tête dans les étoiles, mais surtout les pieds sur Terre, et on s'efforce toujours de faire en sorte que nos efforts et nos avancées puissent avant tout resservir pour améliorer notre quotidien sur Terre.
Qui est étudiant, là je parle à Mohamed Iran Manesh et à Camille Gauthier, pas Camille Conti, excusez-moi. En quoi le fait que vous avez un œil dirigé vers Mars modifie-t-il vos études ? Est-ce que vous choisissez des études en fonction de ce désir, de ce projet ? Ou est-ce que vous suivez des études d'ingénieur classiques ?
Les études d'ingénieur que j'avais commencé, j'ai décidé de les spécialiser dans le spatial. C'était en partant de cette volonté-là. Je crois que, comme beaucoup d'ingénieurs, on a envie d'avoir un impact autour de nous, un impact sur Terre positif. Et c'est sûr que l'espace, c'est un des endroits où on peut avoir un impact, participer en tout cas à avoir un impact global sur beaucoup de gens et changer la vie de beaucoup de gens. Et c'est pour ça que l'espace est très intéressant, même indépendamment de l'aspect exploration et l'aspect romantique de l'exploration spatiale. Juste le fait que c'est, on travaille sur des technologies qui vont impacter la vie de beaucoup de gens. Et donc rien que ça, c'est très intéressant d'un point de vue purement challenge ingénieur.
Donc vous avez voilà, une motivation qui est celle d'un ingénieur qui veut tester des nouveaux instruments, rencontrer de nouvelles conditions, faire de nouvelles recherches. C'est ça?
Oui, c'est ça. Et donc, du coup, notre école, l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace à Supéro, c'est l'endroit parfait ici parce qu'on est entouré de gens qui vont faire de la recherche sur ces technologies-là, qui sont à la pointe. Et donc, on se rencontre autour de nous dans cette école que, comme il y a énormément de professeurs, dont Madame Lidetré, qui font des études, des recherches là-dessus, on voit qu'ils sont en train d'avancer. Donc, ça nous donne l'impression que ces découvertes et ces recherches sont possibles. Et donc, nous, ça nous encourage aussi dans notre démarche à aller plus loin et, parce qu'on se dit que c'est possible, en fait.
Alors, j'ai lu quelque part qu'il y avait quand même un projet envisagé pour 2034, non? Enfin, qu'il y avait une date qui avait été avancée autour de cette période. C'est prématuré?
Je pense que 2034, c'est un peu, oui, ambitieux.
Donc, ça serait quoi, 2050?
Plutôt, et ça me semble plus raisonnable.
2050, vous aurez quel âge, messieurs?
On aura 59 ans.
Je crois qu'il y aura sûrement peut-être une mission juste autour de Mars en orbite. Peut-être qu'on pourra espérer l'avoir avant 2050. Rien qu'avoir des humains qui seraient
que
en orbite.
Que du voyage, on ne se pose pas.
Ça va induire énormément de complexité en plus si on veut se poser et commencer à marcher. Mais même pour la Lune, donc la première mission Apollo, le but c'était d'envoyer un homme à ces endroits-là qui sont en orbite autour de la Lune et puis après faire descendre quelqu'un. Mais j'espère en tout cas que ça s'accélérera et que ça va se faire seulement s'il y a de la coopération entre les différents pays.
Camille Gontier.
Jusqu'à présent, il n'y a aucune agence spatiale internationale qui ait de projet bien bien défini pour Mars. C'est seulement des grandes lignes, des deadlines assez vagues. Effectivement, la NASA, dans ses derniers projets, planchait pour une mission vers Mars dans la décennie 2030. Mais ça me semble effectivement fort optimiste.
Qu'est-ce qui retarde? C'est des problèmes de budget? C'est parce qu'on découvre de nouveaux problèmes techniques ou des problèmes humains?
Alors effectivement, il y a des problèmes technologiques. Il y a par exemple le problème de la propulsion nucléaire, il y a le problème des systèmes de support vie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que un exemple qui nous montre que aucun problème technologique ne puisse être surmonté rapidement à partir du moment où on met un budget suffisant, c'est par exemple le projet Manhattan, le développement d'une bombe atomique par les Américains pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui semblait insurmontable au début de la guerre et qui a finalement réussi à aboutir parce qu'on y a mis les capacités et le capital nécessaires. Donc je pense que ce qui nous freine actuellement pour la conquête de Mars, c'est moins...
Mais il y avait une raison, entre guillemets, impérieuse.
Voilà, effectivement.
Ce qui n'est pas le cas de Mars.
Effectivement, je pense que pour Mars, les contraintes sont moins technologiques que économiques et politiques. Ça nécessite un budget conséquent, qu'il est difficile de justifier en période de crise économique, à l'heure où les gens sur Terre ont d'autres problèmes, et des coopérations entre différents pays qu'il n'est pas forcément facile d'obtenir.
En complément de ce que...
Stéphanie Lizy-Détré.
Donc je voulais juste compléter la réponse de Camille, parce qu'effectivement, ce qui me semble important à souligner, c'est au-delà des difficultés technologiques, même si les briques de base sont en cours de développement actuellement, hein, un gros lanceur, un véhicule habité, c'est vraiment les enjeux politiques. Il faut savoir que toutes les grandes missions spatiales, qu'on soit en Europe, aux États-Unis ou en Asie, dépendent de la volonté des politiques. Et les politiques s'appuient sur la volonté des habitants. Donc il faut effectivement avoir un enjeu qui dépasse et qui fédère. C'est pour ça que les vols Apollo ont été une réussite, parce que il y avait cette volonté à l'époque de montrer la suprématie des États-Unis. Là, actuellement, on n'a plus cette volonté-là. Donc, effectivement, c'est la politique qui va freiner le développement. Et par exemple, l'ISS, elle va être exploitée jusqu'en 2024, peut-être 2025. La décision de l'étape d'après a toujours pas été prise, et c'est dans très peu de temps. À l'échelle du développement de systèmes spatiaux, 10 ans, ça passe très vite.
En plus, c'est toute une industrie qui ne peut survivre que si elle se donne des projets à très long terme.
Exactement. Alors, plus que l'industrie, je dirais, c'est la pérennisation du savoir-faire. Si vous passez une génération, Et ben, comment être sûr que la génération suivante sera capable de remettre en route de tels projets? Donc il faut maintenir ce savoir.
C'est des problématiques qui ressemblent à celles de la physique des particules, par exemple. On fait une grosse machine, et pour faire la machine suivante, il faut qu'il y ait une continuité dans les projets, sinon...
Exactement, exactement.
Je reviens, messieurs, à l'expérience que vous avez vécue, donc 15 jours enfermés, quasiment enfermés dans une capsule dans le désert de l'Utah. Quelle était l'ambiance, j'allais dire à bord, mais c'est pas le bon terme, mais dans cet environnement, c'était plutôt festif, consciencieux, studieux?
L'ambiance était très très bonne. Encore une fois, on avait ce qui me faisait peur personnellement au début de la mission, c'était l'aspect psychologique. Est-ce qu'on allait réussir pendant 15 jours à maintenir une bonne ambiance et à...
15 jours, c'est quand même moins qu'une colonie de vacances.
Bah écoutez, pour avoir connu à Superhero, les 5 autres personnes avec qui je suis parti dans cette mission, la principale question que je me suis posée en arrivant, c'était lequel des 5 j'allais finir par étrangler le premier. Mais finalement, on s'est tous très bien entendus. Parce qu'on, le fait qu'on se connaisse d'avant a beaucoup facilité les choses. Et puis même, on était beaucoup plus soucieux que d'habitude de pas froisser des susceptibilités, on marchait beaucoup plus sur des œufs, on était beaucoup plus prudent, on se permettait pas les mêmes blagues que sur Terre, pour être absolument sûr de préserver la bonne ambiance au sein du groupe.
Mais vous pourriez retenir vos blagues pendant 2 ans?
Moi oui, moi mal, je ne sais pas.
Non, mais c'est vrai que même en fait, pendant 15 jours, donc chez nous, il n'y a pas eu de problème, mais ça fait quand même plusieurs années que la base existe, et il y a eu des équipages où ça s'est très mal passé. Rien que le manque d'intimité, le fait de, si vous avez une tension ou un problème avec quelqu'un, en fait, vous pouvez pas l'éviter, en fait. C'est tout simplement aussi, c'est juste ça, quoi. Donc, on peut pas éviter quelqu'un avec qui on a un problème. Et donc, si c'est des personnalités qui renforment tout, qui ne cherchent pas à communiquer ou à régler le problème, ils peuvent avoir des problèmes. Et il y a déjà eu ça, où des personnes, après, même 5 jours, une semaine, ils s'enferment, ou alors ils décident de quitter la mission, et la mission est un échec. Là, chez nous, il y avait une très bonne ambiance. Donc voilà, on avait tous le même âge, peut-être on est de la même école, donc on a un peu la même culture et le même centre d'intérêt, donc les discussions étaient beaucoup...
Ça, c'est pas un message universaliste, hein. Ça veut dire que ça ne marche que si on a des gens de la même culture, qui se connaissent bien.
Mais là, c'est parce qu'on prend pas, du coup, comme des vrais astronautes, le temps de vivre ensemble énormément, donc ça aide d'avoir cette base, mais c'est sûr que si, donc sur l'ISS, où les gens sont, il y a des équipages complètement internationaux, du coup, eux, ils doivent faire un effort supplémentaire de passer énormément de temps ensemble pour apprendre à se connaître. Oui. C'est juste dans ce sens-là.
Et puis les astronautes qui partent pour la Station Spatiale Internationale s'entraînent ensemble pendant des années et se connaissent très très bien au moment de partir.
Oui, j'allais juste souligner que même vous représentiez plusieurs nationalités,
oui,
ça, malgré
c'est
tout.
C'est vrai, oui.
Un Belge et un Français.
Il y avait des Canadiens, il y avait des gens avec des...
On était nombreux à avoir des doubles nationalités, oui.
Donc vous êtes en train de me dire que plus on connaît quelqu'un, mieux on s'entend avec lui. Plus la durée de cohabitation est grande et plus l'harmonie...
Non, mais par exemple, moi je parle pour moi-même, donc je sais que j'étais quelqu'un qui, justement, s'il y avait quelque chose qui me dérangeait, j'allais pas le cacher, quoi. Donc si les gens me connaissent et ils savent que je suis quelqu'un qui a cette personnalité-là, du coup, le jour où je vais commencer à discuter d'un sujet, où ils vont pas le prendre personnellement parce qu'ils savent que je suis comme ça, ils savent que je suis quelqu'un qui va vocaliser une tout simplement une critique ou son opinion. Donc ça va pas les choquer, tout simplement, et donc ils seront plus faciles à...
Donc il faudra avoir des compétences d'ingénieur et un doctorat de psychologie.
Ça, c'est clair et net. C'est tout ce qu'on nous dit, en fait. Donc la directrice de la base là-bas, elle nous a dit... Donc, science is the easy part, c'est, la science sera la partie facile. Ce qui est difficile, c'est de faire travailler 6 personnes ensemble pendant 18 mois. Ça, ce sera clairement la partie la plus compliquée d'une mission humaine.
Et les astronautes professionnels sont non seulement recrutés sur leur capacité physique et leurs compétences techniques, mais aussi beaucoup sur leur solidité psychologique et leur capacité à travailler en équipe.
Et aussi leur capacité à vouloir revenir sur Terre.
Oui.
Alors, c'est-à-dire, on détecte les tendances suicidaires.
Oui, exactement. Quelqu'un qu'on sentirait, parce qu'il y a cet effet-là, une fois que vous êtes dans l'espace, il y a cette tentation de vouloir y rester. Et donc,
semble que les gens veulent rester dans l'espace.
Oui. Et donc, un des critères de sélection, en tout cas pour le corps des astronautes européens, c'est des gens qui ont de solides attaches sur Terre, une famille, des gens qu'ils ont envie de revoir.
Et comment ça se mesure, ça?
À travers les interviews, en fait, les gens sont formés à faire cette sélection-là, et à travers, effectivement, des entretiens psychologiques, des jeux de rôle.
C'est un peu paradoxal, parce que si on a des très fortes attaches sur Terre, on n'a peut-être pas envie d'en partir longtemps.
Oui, mais 18 mois, c'est pas non plus, c'est court sur la vie, sur l'espérance de vie humaine.
C'est un post-doc.
Voilà, exactement.
Un post-doc à l'étranger,
voilà.
Enfin, un étranger assez lointain.
Non, mais c'est vrai que la capacité à vivre à l'étranger est également un critère de sélection. Il faut avoir vécu pendant plus de 6 mois au minimum à l'étranger pour pouvoir montrer qu'on sait s'adapter à un nouvel environnement, à une nouvelle culture, à de nouveaux camarades de jeu.
Bon, le terme de cette émission approche, madame et messieurs. Et j'ai envie de vous poser une question. Comment est-ce que chacun d'entre vous se projette dans les années futures autour de ce projet Mars? Alors, soit pour préparer un vol futur, soit pour être candidat à effectuer ce vol. Comment est-ce que ça se passe dans votre tête? Camille Gontier, pour commencer.
Alors moi, très concrètement, ce que j'envisage de faire, c'est de continuer à m'investir au sein de l'association Planète Mars, qui est le relais en France de la Mars Society. L'association Planète Mars et ses membres dirigeants nous ont tout au long de cette mission apporté un soutien technique. Ils promeuvent au sein de la population française l'intérêt pour l'exploration spatiale et l'exploration martienne en particulier, ce que je trouve absolument capital après ce qu'on a dit au sujet des contraintes qui pèsent sur l'organisation d'une future mission spatiale. Et je souhaite continuer à m'investir dans cette association pour faire connaître et aimer l'exploration spatiale.
C'est-à-dire que vous recrutez des gens pour vous succéder pour la mission l'année prochaine, peut-être?
Effectivement, ça, on fait ça en interne à Super-Héro. Les membres de cette association donnent des conférences, apportent une expertise technique.
Mohamed?
Moi, je... clairement,
vous êtes déjà
je...
à votre deuxième expérience. Est-ce qu'il y en aura une troisième?
Je vais sûrement aider l'équipage de notre école pour qu'ils préparent leur mission l'année prochaine. Mais moi, personnellement, je me destine clairement à une carrière dans le spatial, et j'espère donc faire mes choix de carrière pour ne pas être très loin des problématiques de l'exploration humaine, pour que si jamais on se décide enfin à aller vers Mars, je puisse y participer, si pas comme astronaute, au moins comme ingénieur système, comme équipe au sol, pour participer en fait à cette exploration-là.
Mais quand vous racontez votre expérience, est-ce que vous sentez que ça intéresse vos camarades? Ils sont nombreux à être candidats. Ou est-ce que vous restez des curiosités qu'on ne veut pas imiter?
Non, non. Donc, dans une école où les gens sont passionnés soit par l'aéronautique, soit par l'espace, clairement, ce type d'expérience est très intéressant. Donc, nous, la chance qu'on a dans notre école, il y avait déjà des clubs qui travaillaient, par exemple, sur la préparation de fusées ou des CubeSat ou d'autres aspects, en fait, des missions spatiales. Et il manquait cet aspect humain. Et ils sont très heureux que maintenant, il y a un club qui se concentre là-dessus aussi.
Et vous, Stéphanie Lisier-Détré, qui êtes professeure,
oui.
Comment ça va se passer pour la suite?
Alors, moi, j'ai déjà eu la chance de participer au programme ATV, donc, qui était le cargo européen de ravitaillement de la station spatiale. Donc, je baigne dans cette thématique de l'exploration habitée depuis un certain temps. Je fais ma recherche là-dedans, donc j'ai la chance de travailler, d'interagir avec les agences et avec les astronautes. Mais clairement, j'envisage et je rêve de pouvoir monter une mission sur une plus longue durée avec un équipage peut-être mixte entre des étudiants et des chercheurs de l'école pour pouvoir aller emmener nos expériences dans la base, et puis avec la vision peut-être d'aller en Antarctique à Concordia pour pouvoir tester dans un autre type d'environnement d'autres enjeux. Donc oui, l'aventure continue en tout cas.
Merci à vous trois, Mohamed, Iran Manesh, Camille Gontier et Stéphanie Lisier-Détré, d'être venu nous parler de votre rêve de Mars. Si vous allez sur la Lune, si vous en revenez, et si cette émission dure encore, eh bien je vous inviterai.
Merci.
Voilà, c'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Catherine Madure, à la technique Bruno Gagnère-Fontanille, et à la réalisation François Connac.
Vivement les Martiens. Qu'on je trompe aux germes. Il est légal qu'une race soit légale.
Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Projection Privée par Michel Simon.